Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Sud Plus avec Sophie dans notre émission hebdomadaire Page en Partage où on vous fait découvrir des livres pays, des auteurs locaux. Et aujourd'hui, je suis avec Renly Stecchio, bonjour.
Bonjour.
Qui a publié Inès ou l'ivresse de l'ailleurs aux éditions Ludir. Et on est là pour en parler aujourd'hui. Donc c'est un livre qui est sorti cette année, Renly's. Oui. Mais j'imagine que vu le sujet, c'est une histoire que vous portez en vous depuis longtemps, puisque oui, on est aujourd'hui dans un sujet un peu grave. On va parler de violence conjugale et d'alcoolisme, donc un fléau qui existe dans beaucoup de familles à La Réunion. Beaucoup de gens ont été confrontés, et pas qu'à La Réunion d'ailleurs, hein, aussi en métropole, mais on est là pour parler de ce qui se passe. Et donc, comment est-ce que de cette histoire lourde que vous portez en vous, vous êtes venu à ce projet de l'écrire, à passer par l'écriture ?
Alors, comme toute histoire personnelle, bien sûr, je la porte en moi depuis très longtemps. Et en fait, le déclic, ça a été un cours de français, que je raconte dans le livre d'ailleurs, un cours de français où on étudiait un passage de Zola, de l'Assommoir de Zola, où il était question justement du personnage principal qui est Gervaise, qui subit, qui est en prise avec l'alcoolisme et qui subit aussi des violences. Donc voilà, donc quand j'ai lu ce passage en classe, les émotions sont remontées et j'ai compris qu'il fallait que j'écrive. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire, je suis passée par plusieurs étapes.
Et c'est l'intérêt de la littérature, puisque la littérature porte pour des problèmes qui sont universels. Mmh. Et donc Zola a aussi décrit ces problèmes malheureusement existent dans beaucoup d'autres familles. Donc vous étiez déjà âgée ou c'était quand vous étiez jeune?
Non, j'étais au lycée, puisque c'était un cours de français, j'étais en première.
Donc ça veut dire que le livre a déjà commencé à être écrit alors que vous étiez encore toute jeune fille?
Dans ma tête.
Dans votre tête.
Dans ma tête, en tout cas, après la vie a voulu que j'ai pas pu le faire tout de suite, mais après j'ai commencé à écrire en fait beaucoup plus tard. Vraiment, l'écriture vraiment est venue beaucoup plus tard.
Et comme vous avez publié à Ludir, est-ce que vous avez participé à des ateliers avec Ludir? Alors, on rappelle ce qu'est Ludir pour ceux qui ne connaissent pas.
L'Union pour la défense de l'identité réunionnaise.
Voilà, donc voilà. Qui publie des livres sur des histoires a priori de La Réunion, oui.
Locaux, oui. Et donc oui, donc j'ai participé à un atelier de Ludir et dès le deuxième jour, Jean-François Samlong, qui est le président de Ludir, m'a appelé pour me dire que mon livre l'intéressait et que si je voulais être édité par Ludir. Donc j'ai tout de suite dit oui.
Ah bah oui, on imagine que oui. En dehors de l'idée de porter cette histoire qui était en vous, est-ce que l'écriture est quelque chose qui vous a attiré d'autres façons, si je puis dire?
Oui, depuis toute jeune. Hein. En fait, quand j'étais élève déjà au primaire, j'adorais les rédactions. Donc ça a commencé par les rédactions à l'école. Voilà. Après, j'ai écrit des poèmes que mon professeur de français, là j'étais en troisième, que mon professeur de français a dédaigné, mais que j'ai présenté ensuite à un concours d'une grande surface, du premier grand magasin de Lille qui était au port, que je ne citerai pas, que je ne nommerai pas. Et donc j'ai présenté mes poèmes et j'ai eu le premier prix. Donc c'était des poèmes sur ma mère, bien sûr, et j'ai eu le premier prix. Donc ça a été la première visibilité de l'histoire d'Inès et de Germain.
Et maintenant que cette histoire, on va dire, est sortie de vous, est-ce que vous envisagez aussi maintenant d'écrire sur d'autres sujets, plus légers ou pas, d'ailleurs, on va dire. Hein.
J'ai commencé donc avec Inès ou l'ivresse de l'ailleurs, il y a le mot ailleurs, donc, le nouveau roman que j'ai commencé parlera aussi de l'ailleurs des Réunionnais, des premiers Réunionnais, l'ici et l'ailleurs des premiers Réunionnais.
Oui, alors le Réunionnais, alors on verra dans votre livre aussi, il y a quelqu'un qui a dit au Salon Athéna qu'être sur une île, être un ilien, c'est forcément connaître l'exil. parce qu'on est trop petit pour toujours rester là. Et beaucoup de réunionnais, ben, moi la première, hein, sont partis, sont revenus. Oui, mais en tout cas, cette nécessité de partir, de ressentir le manque de la Réunion et de s'enrichir aussi, elle est inscrite au cœur même du fait qu'on soit des Iliens.
Bien sûr, je suis d'accord.
Donc beaucoup de réunionnais vont aussi explorer ces voies, dire qu'est-ce que l'altérité d'être ailleurs leur fait ou comment ça les fait évoluer.
Et pour mieux revenir parfois, il y en a qui restent là-bas. Moi, en tout cas, dans mon cas personnel, ça, je suis partie, mais j'avais besoin de revenir, j'avais quelque chose à faire ici. Quoi.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors, dans Inès ou l'ivresse de l'ailleurs, vous portez aussi un témoignage sur la Réunion des années 60 et avant, hein, sur la façon de vivre des gens. Il y a aussi des moments, on va dire, familiaux, qui sont gays, qui sont touchants. Donc, c'est aussi toute une époque que vous racontez. Et ça, c'est aussi intéressant. Donc, on va peut-être, si vous êtes d'accord, partir un petit peu de ces personnages et regarder au niveau chronologique avec vous comment ils ont évolué. Et puis à ce moment-là, bah, vous pouvez faire vos commentaires ou pas sur cela.
Peut-être que je voudrais intervenir sur le vous dites qu'il y a quand même des moments heureux, des moments gays.
Je pense que c'est
important de le souligner parce que quand on lit mon livre, comme on m'en a dit en tout cas, souvent ils me disent c'est dur, il y a de la violence, mais je veux toujours, je précise qu'il y a quand même autre chose que la violence. Il y a la résilience, il y a l'amour, il y a le
bien
pardon.
Et puis il y a
les petits moments de bonheur dans la résilience. La résilience, pourquoi ? C'est parce qu'on arrive à vivre malgré tout. Quoi.
Bien sûr. Donc déjà, ça parle de Salazie, hein, puisque c'est le berceau de votre famille. Et on voit la description de Salazie à une époque, comment les gens vivaient, etc. Vous avez toujours des liens avec Salazie aujourd'hui ?
Oui, j'ai toujours des liens. Alors, je dois dire quand même que j'ai choisi Salazie. En fait, ce n'est pas le berceau de notre famille vraiment, mais j'ai choisi Salazie à cause de l'isolement. C'est-à-dire que je voulais parler de l'isolement d'Inès, et Salazie s'y prêtait tout à fait, et c'est un endroit que j'aime beaucoup, 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 donc c'est pour ça que j'ai choisi Salazie.
D'accord, donc notre héroïne, c'est Inès, on va partir d'elle, et puis bah, comme toute jeune fille qui naît à Salazie, c'est encore un peu la grande pauvreté, ou du moins... Tout le monde était pareil, donc est-ce qu'on était pauvres ? Voilà, les gens n'avaient pas l'électricité, ils avaient leur linge à la main, ils allaient à la rivière. Et puis les familles étaient encore empreintes de christianisme. Il y avait la place de l'église, tout ça qui restait forte. Et cette jeune fille grandit un peu avec sa grand-mère, c'est ça ? Sa mère
dans un premier temps, mais pas longtemps malheureusement.
Donc sa mère est dure hein, à l'époque, il y a voilà, une certaine dureté.
C'est la grand-mère qui est dure. Elle perd sa mère très tôt. Et effectivement, la grand-mère qui a la charge d'élever, ils étaient quand même cinq. Donc elle a choisi d'être dure justement pour pouvoir mener son
Ou peut-être son que rôle. C'est aussi ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui on a des familles de maximum 3 enfants et qu'à l'époque quand on avait ces familles de 5 à 8 enfants, l'autoritarisme est la seule façon de faire qu'on les élève parce qu'on ne peut pas laisser partir à eux Adia.
Surtout et donc, quand on est seul à les élever.
Et quand on est une femme, il n'y a pas
le masculine.
Voilà, tout à fait. Donc, mais elle grandit et puis elle commence, elle est amoureuse, on va dire, ça vient assez vite quand on est une jolie jeune fille de Salazie. Et c'est la rencontre avec Germain, qui est aussi de là-bas et qui est amoureux, il commence à se fréquenter, c'est ça. Et puis, Germain, il doit partir à la guerre, c'est ça ?
C'est ça. C'est là que tout va basculer.
Tout va basculer parce que ce Germain qui va à la guerre, il va rencontrer les horreurs de la guerre. C'est la guerre d'Indochine, si je me souviens bien. Et à l'époque, on n'a pas de soutien psychologique en revenant, on n'a pas tout ça. Et c'est deux mondes, on rentre de la guerre, on ferme la parenthèse et on essaye d'oublier. Mais malgré tout, vous, en tout cas, vous donnez ça comme une clé d'explication de la suite du roman. C'est qu'il va revenir marqué. Très marqué par cette guerre. Et il va essayer de reprendre sa vie. Cette jeune fille qu'il a aimée. Il y a 2-3 péripéties. On ne va pas tout dévoiler du roman. Mais toujours est-il qu'elle va très vite se retrouver enceinte, en quelque sorte. Et donc, il fallait que les choses avancent. Est-ce que je peux lire un petit passage ?
Allez-y, je vous en prie.
Je vais couper si c'est trop long. Donc, Alors, elle est en train de laver le linge et sa sœur lui dit « Arrête de rêvasser, Inès. Viens, on va pêcher les écrevisses avec les autres. On en fera une friture ce soir. Grand-mère sera contente. » La pêche terminée, le linge est ramassé, plié, enveloppé et ramené au village. De toute la journée, Inès n'a pas dit un mot. Son comportement étrange n'a pas non plus échappé à Madeleine. Cela fait plusieurs semaines que ses yeux inquisiteurs observent sa petite fille. Elle a bien une idée de ce qui se passe. Voilà 2 mois qu'Inès n'étend plus ses toiles périodiques sur la corde de l'arrière-cour. De surcroît, elle a perdu l'appétit et se cache pour vomir. Inès est à peine revenue de la rivière que sa grand-mère l'a fait asseoir dans la cuisine. Maintenant, tu vas me dire ce qui se passe. Son fouet aidant, Madeleine finit par obtenir des aveux. Après cette révélation, elle met Inès à la porte avec ces mots irrévocables. « Je ne veux pas de bâtard dans la maison, tu n'as qu'à aller faire la putain dans la rue. » Inès prend alors son baluchon et va se réfugier dans le petit bois qui a abrité ses premiers ébats avec Germain. Quand quelques semaines plus tôt, elle l'avait informé son fiancé du retard inquiétant de ses règles, celui-ci n'avait pas hésité une seconde. « Quelles qu'en soient les conséquences, nous garderons l'enfant. » Sur le moment, la réponse de Germain l'avait rassurée. Aujourd'hui que Madeleine l'a reniée, elle n'est plus aussi confiante. Et si Germain ne supportait pas le scandale et qu'il choisit de l'abandonner, Louise ne manquerait pas de l'encourager dans ce sens. Son appréhension s'envole aussitôt que, prévenue par Jeanne, Germain la rejoint. « Je suis là, ne t'inquiète pas, on va s'en aller. » Quitter le village lui semble urgent et inévitable. Le jour même, il demande à Jules et à Odette, ses cousins de Saint-Denis, de les héberger. Voilà, donc c'est un premier passage qui voit que dans la vie, elle commence avec difficulté, puisqu'elle est mise à la porte de sa maison pour avoir été enceinte. Mais c'était un peu les mœurs de l'époque, hein. C'était soit on procrée avec le mariage, ou soit oust. Et heureusement quand même, ce Germain, il est amoureux, il est gentil, donc il va s'occuper de sa famille, du mieux qu'il peut. Voilà, donc ça c'est une partie que vous racontez, vous n'étiez pas encore là, hein, puisque Inès c'est votre maman, mais voilà, malgré, il revient de la guerre, sa femme est enceinte, il va s'en occuper, et comme il a été valeureux, donc il est là un peu la fierté de sa famille, pour ses actes.
C'est un héros de guerre, on le considère comme un héros.
Déjà il a sauté la mer, il est parti ailleurs, il a vu autre chose, et même si c'est des horreurs, il revient un peu auréolé. Et donc il va obtenir un poste dans l'administration, c'est ça?
C'est ça, oui.
Donc il va partir.
Parce qu'il a fait, la guerre, c'est un peu une récompense pour ce qu'il a fait pour la patrie.
D'accord. Donc il va finir douanier, c'est ça?
Douanier, oui. À la fin, il est douanier. Oui.
Mais au départ, il part pour les eaux et forêts, c'est ça?
Voilà. Il travaille dans les eaux et forêts. Oui.
Donc il doit se former et très vite, il va devoir aller en métropole pour cette formation. Donc ce qui est une bonne chose. Mais la pauvre Inès va se retrouver déjà avec son bébé toute seule. Donc elle doit faire face.
C'est ses enfants.
Elle en a déjà plusieurs en route.
C'est le cinquième en fait. Cinquième enfant. Oui.
Donc quand son mari est amené à partir. Bon, on est encore dans l'ambiance de Tout est joli. On fait cette première pause musicale. D'accord. Donc on va écouter cette chanson que Reine-Lise a choisie.
Dimanche soir, à côté de petit bazar, un petit fille était là, moi la ville, il était gaillard. Dimanche soir, à côté de petit bazar, un petit fille était là, moi la bâtisse et pouvoir. Son robe d'équivole en l'air, son figure l'était clair, il avait un bon petit lot d'air, moi la cosse côté de lit, il a fait son joli. Alors, moi la dit, tout est joli, tout dans les blancs comme de riz. Tu es les jolies, ton zier brille comme granitchi, ton zier les noirs tifi, ton cheveu les noirs aussi, à tifi n'a rien que ton dent que les blancs comme un grain de riz. Tu es les jolies, oh tifi, tu es les jolies, jolies même, n'a rien que tu es même, bouffer fond de mon cœur comme ça même. Tu es les jolies, ton dans les blancs comme le riz. Tu es les jolies, ton yeux brillent comme grain de chi. Ton yeux les noirs tifi, ton cheveu les noirs aussi. A tifi n'a rien que ton dent que les blancs comme un grain de riz. Donne à lire rendez-vous, barrachois moi la nuit, mais voilà mon Tifil, il était pas là. Donne à lire rendez-vous, barrachois moi la nuit, mais voilà Tifil a dépila. Moi la partie de Siladig, la pas côté la mer, n'aurait été moins Dieu m'imagine. Quand soleil la tombe dans la mer, l'été pareil mon cœur. Moi t'es plaît à mon zézer. Tu es les jolies, tout dans les blancs comme de riz. Tu es les jolies, ton yeux brille comme granitchi. Ton yeux les noirs tes filles, ton cheveu les noirs aussi. A tes filles n'a rien que ton dent que les blancs comme un grain de riz. Tu es les jolies, oh tes filles, tu es les jolies, jolies même. N'a rien que toi-même. Fond de mon cœur comme ça même. Tu es les jolies, tout dans les blancs comme de riz. Tu es les jolies, ton yeux brillent comme granitchi. Ton yeux les noirs tes filles, ton cheveu les noirs aussi. A tes filles n'a rien que ton dent que les blancs comme un grain de riz. A tes filles n'a rien que ton dent que les blancs comme un grain de riz.
Radio Sud Plus Réunion, la sensation.
Vous êtes sur Page en Partage. Ce matin, avec Renly Stecchio, on parle de son livre, Inès ou l'ivresse de l'ailleurs. Donc, sur la couverture, on n'a pas parlé de la couverture. Qu'est-ce qu'on voit alors ?
Alors, vous pouvez nous décrire. D'abord, je voudrais dire que c'est ma sœur, Claire Maillot, qui a fait la couverture, qui a dessiné. Et donc, au premier plan, on voit Inès. En fait, il y a un peu certains thèmes qui ressortent, donc Inès. Assis sur une chaise, il y a Aimé.
Donc c'est celle en fait, qui va témoin, raconter voilà, l'histoire.
Qui est témoin direct de l'alcoolisme et de la violence, parce qu'on voit Inès affalée et un verre renversé
à ses pieds.
Voilà. Ensuite, on voit la petite case en paille pour montrer qu'ils étaient pauvres.
Ouais.
Voilà. Et tout au fond, on voit la tour Eiffel qui symbolisait, je ne sais pas si ça symbolise toujours, mais en tout cas, c'était l'ailleurs des Réunionnais, c'est-à-dire aller en France, c'était le rêve. C'était le rêve d'Inès de partir en France, où elle espérait trouver un ailleurs plus prometteur. Voilà. Donc l'histoire montrera que...
On verra. On va parler de cet ailleurs. Donc ils sont exilés. Ils doivent partir en Alsace pour la formation du papa. Donc là, toute la famille va suivre.
Oui,
et donc elle vit son rêve.
Voilà, dans un premier temps, il part tout seul pour sa formation et après il revient. Et il va chercher sa famille. Il vient chercher sa famille et ils repartent tous en Alsace.
Et donc là, c'est la découverte classique de la Réunionnaise qui vient en métropole. Et il y a des bons moments, si je peux lire un petit passage.
Oui, dans un premier temps, oui, il y a de bons moments.
Ouais. Deux tours de clé, Inès franchit le seuil de l'appartement. Amusée, Germain l'observe. Elle avance doucement. Un salon, une salle à manger, une cuisine équipée, trois chambres à coucher, un cabinet, une salle de bain, avec baignoire, le tout carrelé, sa grande maison en béton. Inès en était tout excitée. La semaine suivante, elle demande à Germain de l'emmener faire les magasins à Strasbourg pour acheter du linge de maison, des articles de décoration et de la vaisselle. En l'absence de son mari, elle prend plaisir à s'occuper de son logis. La fin de mois, elle fait les courses avec lui au prix unique de la ville voisine. Et à la belle saison, Germain l'emmène sa troupe en promenade. Inès prépare le pique-nique. Souvent, ils reviennent au bercail tard dans la soirée. Germain fredonne toujours la Madelon, sa chanson préférée. Sur le siège arrière, un chœur improvisé reprend le chant militaire. Peu à peu, les voix s'estompent jusqu'à s'éteindre. Les apprentis chanteurs se sont endormis. En arrivant, Germain transporte les petits jusqu'à leur chambre, précédé par Inès, qui a réveillé les plus grands. Avant de se mettre au lit, les parents s'asseyent un moment dans le salon. Germain sort du vaisselier la bouteille de whisky et la liqueur de pain d'épices. Inès affectionne particulièrement ce rituel dominical, ce moment privilégié de complicité avec Germain, à siroter son eau de vie pendant que son mari se régale du précieux liquide ambré. Donc il y a des bons moments, mais apparemment ça commence comme ça.
Voilà, c'est-à-dire que dès la fin de ce passage-là, il y a l'alcoolisme qui s'annonce. par le petit verre de pain d'épices. Et ça devient une habitude. Et après, quand les problèmes vont arriver, ben, ce sera plus qu'une habitude. Donc, ce sera quotidien.
Donc, voilà. Donc, au départ, c'est juste, ben, voilà, on peut dire, un petit moment social, un petit plaisir. Voilà, et puis, voilà, des fois, on en reste là. Il y a des gens qui en restent là. Et puis après, quand les soucis arrivent, ben, c'est dans ces plaisirs-là qu'elle va se réfugier. Ouais. Donc on va aller de mal en pis. Comment est-ce que vous décrivez cette période en Alsace finalement? Voilà, c'est là est-ce que ça dévie finalement?
Alors en fait, Inès se retrouve seule. Elle se retrouve seule parce que son mari travaille. Donc elle a à peine appris à lire et à écrire. Donc elle n'a pas, comme on dit toujours peut-être, d'instruction. Donc elle reste à la maison. Elle a six enfants, donc il faut qu'elle s'occupe de ses enfants, donc elle reste à la maison. Ses seules sorties, donc, c'est aller faire les courses.
Le
supermarché, aller faire les courses, acheter le pain. Donc les voisins ne sont pas très sympas non plus, parce que c'est une femme des îles, en plus avec une flopée de marmailles, donc ils sont pas très... très gentille. Donc vraiment, elle se referme. Germain, par contre, lui, il a l'occasion de sortir. Il travaille à l'extérieur.
Il a un bon poste. Il a une certaine aura. Oui, ouais.
Il a un bon poste. Et donc, il va y avoir un fossé qui va se creuser entre les deux. Et donc, il rentre de plus en plus tard. Et Inès, elle reste à la maison. Et donc, en attendant, pour oublier qu'il n'est pas là, qu'il y a quelque chose qui se prépare, elle se met à boire un peu plus.
Voilà, donc c'est cet isolement souvent qui est à l'origine du fléau, et puis c'est une sorte de déception aussi. On imagine qu'elle avait rêvé sa vie en métropole avec son amoureux, peut-être plus facile ou en tout cas pas aussi difficile, et loin de sa famille, seule, un peu méprisée parce qu'elle n'a pas l'éducation des autres, elle tombe dans l'alcoolisme. Voilà. Et c'est le début de l'enfer. Et on va dire que à ça, la réaction du père est pas non plus facile.
Oui, oui. En même temps, il y a la violence qui arrive parce qu'évidemment, elle lui fait des reproches et lui, il ne supporte pas qu'on lui fasse des reproches. Donc, d'abord, c'est une violence verbale et puis après, on en vient au coup.
Donc, c'est papa tape et maman boit. Donc, et c'est le cercle vicieux qui s'installe puisque. Elle est de plus en plus malheureuse, donc elle boit de plus en plus. Mmh. Et lui, il supporte pas, il sait pas quoi faire non plus. Mmh. On peut imaginer. Et donc, il répond aussi de cette façon-là. Mmh. Alors, est-ce que c'est simplement la métropole? Ils ont quand même la chance de rentrer à La Réunion après?
Oui. Il rentre à La Réunion et c'est sûr que quand il rentre, Inès, elle est remplie d'espoir. Elle se dit, oui, parce qu'il y a aussi, dans l'isolement, il y a aussi l'absence de la famille.
Bien sûr.
Tant qu'elle était à La Réunion, elle avait la famille à côté, donc c'était plus facile. Donc là-bas, vraiment, elle est vraiment seule. Donc quand elle rentre, elle se dit, c'est bon, je vais retrouver ma famille, ça va aller mieux. Mais malheureusement, ça va se dégrader très vite parce qu'à nouveau, elle sera isolée parce que Germain, il a un poste au port.
Alors, c'est ce que vous expliquez aussi, c'est que finalement, la distance qu'il y a entre le port et Salazie fait que c'est comme si on était un peu en métropole. Ça coûte moins cher d'y aller, mais on peut pas non plus y aller tous les jours, ça prend du temps. Il y a les transports, on peut y aller que le week-end, le mari travaille. Et elle reste dans cette espèce d'isolement quand même de son domicile, de ce piège familial où elle ne peut pas vraiment échapper.
Exactement, et quand la famille vient la voir, parce qu'au départ la famille vient la voir, donc il y a l'isolement, il faut prendre le car courant d'air, il faut prendre le train, le car courant d'air et le train. Et donc ça coûte cher, et
bien
la
sûr.
Famille de Salazie, elle est pauvre, donc ça coûte cher. Et en plus, quand ils arrivent là-bas, ils voient la violence, parce que la violence s'est installée au port. Donc, ils voient la violence et ils ont peur. Ils ont peur, ils ne disent rien parce qu'ils ont peur, en fait.
Alors, ça reste aussi un gros problème de toutes ces violences ou de ces addictions, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment réagir. C'est-à-dire, il y a la peur ou l'espèce de sidération devant le problème fait qu'on ne peut personne ne fait rien finalement.
C'est ça. Surtout à l'époque. À l'époque, c'était, il y avait deux choses. Donc, il y avait la peur et puis
la honte.
Germain, il restait un héros quand même. Donc, on l'admirait. Donc, à la fois, on avait peur de lui et on l'admirait. Donc, il y avait deux bonnes raisons pour qu'on ne dise rien. Quoi. Deux bonnes raisons, entre guillemets, bien sûr. Hein, pour qu'on ne dise
Est-ce
rien.
Que vous pensez que si Germain avait réussi à moins taper, elle aurait arrêté de boire aussi ?
Peut-être.
Ouais.
Peut-être que si elle avait, elle avait été soutenue. Par son mari, si elle avait vécu plus longtemps, mm-hmm. par ses enfants, soutenue par ses enfants, peut-être que... Et puis s'il y avait toutes ces aides qu'il y a maintenant et qu'il n'y avait pas à l'époque, hein, c'était vraiment...
Donc on voyait bien qu'il y avait un problème, mais personne ne se mêlait de la vie autres pour dénoncer ou pour faire quoi. Oui. On est un peu dans cette sidération de... On sait que ça existe et personne ne fait rien.
C'est ça. Et si elle avait été à Salazie, sa famille l'aurait accueillie, au moins aurait soulagé sa souffrance le temps de quelques jours. Mais là, comme elle était loin, elle était vraiment livrée à elle-même et vraiment... fermée, quoi.
Et puis finalement, l'addiction isole. Ça aussi, il faut le dire. C'est qu'on n'est plus la même personne. Les gens n'arrivent plus à vraiment rencontrer qui on est. Et puis, c'est le cercle vicieux.
C'est ça. Et à un moment, même les enfants. Ouais. Même les enfants ont peur. Les enfants, elles s'isolent de ses enfants, en fait. Parce que ses enfants ont peur d'elles.
Alors, c'est vrai qu'au début, ils sont petits. Donc, peut-être aussi, les enfants ne se rendent pas bien compte de ce qui se passe. Puisque, bon, ils ont comme référence que chez eux. Donc voilà. Puis en grandissant, en tout cas l'aîné des garçons aussi va prendre la mesure de ce qui se passe. Et est-ce qu'il y a une solidarité, les enfants, les plus grands protègent les plus petits ?
Oui, oui, il y a une grande solidarité. C'est ce qui leur permet d'ailleurs de s'en sortir par la suite. Il y a une très grande solidarité. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et c'est ce qui permet la résilience. En
fait. Parce que bon, de toute façon, qu'on ait un parent qui soit dans cet état ou pas, on l'aime. Hein, l'amour, en tout cas filial, de ses enfants pour leur maman. Et puis elle représente tout ce qu'ils ont. Voilà. Parce que le papa travaille, il n'est pas là non plus forcément pour eux. Mmh. Donc, ils essayent de l'aider et puis bien sûr, les enfants sont parfois impuissants.
Oui. D'autant plus qu'il y a toujours une ambiguïté. C'est-à-dire que Germain, il est mauvais, mais il peut être bon.
Oui.
Louise, la grand-mère, au début, elle participe à cet isolement d'Inès, à la mise en place de cette violence. Quand Germain il revient d'Indochine et qu'elle lui raconte, oui, elle est allée te tromper avec le curé. Voilà. Mais... à la fin, c'est elle qui vient s'occuper de ses petits-enfants. Et c'est grâce à elle que les enfants peuvent grandir.
Grandir un petit peu dans l'harmonie. Quoi. Voilà, ouais.
Donc c'est en fait, elle devient le pilier autour duquel les enfants s'accrochent. Et ça aussi, elle est vraiment... elle fait partie de la résilience. C'est la première personne à permettre la résilience.
Et comment ça se fait qu'on n'ait pas trouvé vraiment comment résoudre ce problème de l'alcoolisme une fois que toute la famille sait qu'il y a un problème? Il faut attendre qu'elle aille à l'asile pour qu'on ait une cure de désintoxication.
Oui, oui.
Donc vous parlez aussi de cet épisode qui est un épisode douloureux, puisque là, de toute façon, tout le monde est obligé de savoir ce qui s'est passé.
Tout en ne disant rien, les médecins, ils disent rien, ils voient. Mais c'est toujours pareil, ils ne disent rien parce que Germain est un fonctionnaire de l'État, donc il a quand même une certaine prestance, une certaine autorité.
Oui, il voit qu'il le frappe et puis
il ne dénonce pas. Mm-hmm. Il ne dénonce pas.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ça changerait ?
Je pense qu'aujourd'hui, même si on voit malheureusement régulièrement des exemples de femmes qui meurent sous les coups de leur mari, mais aujourd'hui quand même, il y a des associations qui existent, et elles ont la possibilité d'aller à la gendarmerie, elles ont un numéro vert qu'elles peuvent appeler. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place, même si apparemment ça ne suffit pas.
Est-ce qu'on peut peut-être en dire un peu plus ? Il y a des femmes qui nous écoutent, parce qu'il faut aussi rappeler que l'alcoolisme, c'est une maladie, une fois qu'elle est installée. Il n'y a pas à avoir honte ou pas. Toutes les addictions maintiennent une certaine dépendance chimique à la personne qui ne peut s'en sortir qu'avec de l'aide.
C'est ça.
Donc cette aide, il faut savoir aller la chercher. Oui. Et ça demande sans doute beaucoup de courage.
Oui. Ça me permet d'aborder le sujet du non-dit. Parce que pour moi, le non-dit peut tuer. Parce que tout part du non-dit. En fait, si au départ, les femmes, elles arrivent à dire...
On est malheureuse, on n'a pas trouvé d'autre solution que l'alcoolisme.
Si on ne dit pas, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Donc vraiment, c'est la première chose à combattre, je pense, c'est le non-dit. Donc il faut absolument dire, enfin, à mon avis, moi je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistante sociale, mais j'ai traité le sujet, voilà, donc... je pense qu'il faut, il faut qu'elle dise, que les témoins de cette violence arrivent également à dire, même si c'est difficile, oui. Même si on a peur. Donc il faut dire, il faut contacter les associations, il faut contacter la gendarmerie, la police, quand vraiment ça devient
parce qu'elle ne s'est jamais plainte aussi, hein, coups en tout cas, parce qu'elle se sentait coupable. C'est aussi une espèce d'emprise psychologique, parce que quelque part elle avait mérité.
C'est ça, c'est le même problème que la pédophilie. Ceux qui souffrent, ceux qui subissent ça, ils se sentent toujours coupables. D'ailleurs, j'en parle à un moment avec Inès qui subit des attouchements de la part du curé. Elle se sent coupable, donc elle ne dit rien une fois de plus. C'est le non-dit. Voilà. Et c'est vrai qu'on a peur de dire parce qu'on a honte. Alors qu'on n'a pas à avoir honte.
Quand on est victime.
Voilà, quand on est victime,
quand on est malade, quand on est en addiction,
voilà,
on est malade.
Ça,
ouais.
C'est ça.
Bon, alors on va quand même faire une pause parce qu'on a parlé de choses lourdes. On va mettre un peu de musique là-dedans. Vous avez choisi Grégoire. Pourquoi? C'est un chanteur que vous aimez?
Parce que non, je ne le connaissais pas, figurez-vous. Oui. C'est en cherchant sur Internet que je me suis dit, tiens, ça c'est
le bon moment pour écouter cette chanson.
Voilà, pour alors, écouter, on écoute. On est vraiment dans le cœur du sujet.
Très bien, merci.
Dis-moi, maman, c'est quoi ce bruit qu'on entend là au creux d'une nuit? Ça ressemble pas à un éclair. Dis-moi, maman, c'est pas le tonnerre. Dis-moi, maman, pourquoi t'as peur? Dis-moi, maman, pourquoi tu pleures? Et pourquoi tu caches tes yeux? Dis-moi, maman, c'est quoi ces bleus? Dis-moi, maman, est-ce que ça va? Pourquoi tu trembles quand y'a papa? Pourquoi tu me dis chute doucement et que ça n'est rien, mon enfant? Pourquoi, maman, tu dis tout le temps que ce sont les histoires de grands et qu'il ne faut pas le dire aux autres? Pourquoi tu dis que c'est de ta faute, de ta faute? Dis-moi, maman, c'est quoi ces crimes qui nous réveillent au creux des nuits? Dis-moi, maman, pourquoi le matin tu dis toujours que c'était rien? Dis-moi, maman, pourquoi tu me serres? Pourquoi je t'entends faire des prières? Pourquoi c'est si fort que tu m'embrasses? Dis-moi, maman, ce qu'il se passe. Dis-moi, maman, est-ce que ça va? Pourquoi tu trembles quand y'a papa? Pourquoi tu me dis chute doucement et que tout va bien, mon enfant? Pourquoi, maman, tu me dis tout le temps que ce sont les histoires de grands et qu'il ne faut pas le dire aux autres? Pourquoi tu dis que c'est de ta faute? Dis-moi, maman, c'est quoi ce bruit qu'on entend là au creux des nuits? Je sais, maman, c'est pas le tonnerre. Je sais, maman, c'est pas l'éclair. Dis-moi, maman, est-ce que ça va? Pourquoi, maman, tu réponds pas? Maman, dis chute doucement et que tout va bien, mon enfant. Dis-moi, maman, est-ce que ça va? Dis-moi pourquoi tu réponds pas. Dis-moi, maman, est-ce que ça va?
Radio Sud Plus Réunion, la sensation.
Radio Sud Plus Réunion.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Sud Plus dans Page en Partage pour parler du livre de Renly Stecchio, Inès au livrest de l'ailleurs. Alors, Renly, vous avez choisi un passage de votre livre pour qu'on lise. Pourquoi celui-là?
Parce qu'on est vraiment au cœur du sujet dans ce passage. La violence, le non-dit, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a la violence et le non-dit. Et je pense que c'est un passage vraiment qui illustre bien ces deux thèmes présents dans mon livre.
Dès le lendemain, une énième dispute éclate. Éméchée, Inès a osé plaisanter. Pour ne plus s'ennuyer en l'absence de son mari, elle allait prendre un amant. Germain cogne. Inès crie. Il la pousse contre le mur du salon et lui en serre le cou. « Ferme-la, les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe chez nous. » Mais, dans un élan de bravade, Inès parvient à se sauver dans le jardin. Germain la rattrape et, la saisissant par les cheveux, la traîne vers la maison. « Au secours, il veut me tuer !» Les passants s'arrêtent, les voisins accourent. « Bataille la pété !» Tous s'agglutinent devant le portail. Forte de leur présence, Inès fait face à son mari. « Allez, frappe-moi ! Comme ça, ils verront qui tu es vraiment !» Aux premières loges, une foule en haleine attend l'issue de l'affrontement. Furieux, Germain les foudroie du regard. Il n'en faudra pas plus pour que chacun retourne chez soi. En s'exposant ainsi, Inès s'était persuadée que quelqu'un finirait par dénoncer Germain, que le silence se briserait enfin. Rien de tout cela. Le lendemain soir, soustrayant sa femme au regard des autres et lui ôtant définitivement tout espoir d'une aide extérieure, il fixe des feuilles de tôle ondulée sur le grillage clôturé à jouer de la clôture. Confinée et à bout de force, Inès abandonne la lutte et elle redevient la femme docile qu'elle a tellement combattue. Voilà. Donc c'est ça, c'est qu'elle cherche un peu du secours.
De l'aide et qu'elle n'obtient pas, oui.
Donc c'est difficile de demander de l'aide. Et puis même si les gens voient que le mari il frappe, ils se disent aussi.
C'est ça, c'était presque normal. Souvent, ce qu'on disait, c'est elle a bien rodé.
Oui, c'est ça, la violence ordinaire.
S'il fait ça, c'est que quelque part elle le mérite. Et puis c'est un spectacle.
Ouais.
C'est un spectacle malgré tout, c'est triste à dire, mais c'est un spectacle. Mais je pense qu'aujourd'hui quand même, s'il y a ce genre de choses qui se passent, je pense quand même que les gens y dénonceraient.
Ben alors j'espère. On fait un appel, hein, si j'espère. Vous entendez vos voisins se battre et que ça crie comme ça, appelez la police, finalement ouais. Vous risquez quoi ?
C'est ça. Voilà. Alors la question c'est à quel moment on considère que c'est de la violence, à quel moment on considère qu'il faut dénoncer, parce qu'il y a des petites disputes dans les couples.
Oui, toujours, ouais.
Mais je pense qu'à un moment où il y a les coups, il y a les injures, quand on commence à injurier, à déprécier la personne, je pense que là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et il y a une psychiatre qui a dit que la séparation est la fenêtre, ouvre une fenêtre sur la violence. C'est-à-dire qu'au moment de la séparation, souvent, La violence augmente. Donc il faut
parce que les femmes n'osent pas partir souvent à cause de ça, pour des raisons financières, il faut aussi le dire, parce qu'on se dit, changer de vie quand on est en couple avec une famille, des enfants, on se dit de quoi sera fait demain, on sait ce qu'on quitte, c'est violent, mais on a un toit.
Voilà, c'est ça, et puis il y a toujours l'ambiguïté dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le mari, là, il a tapé, mais elle se dit toujours, non, mais il n'est pas si méchant que ça, il va revenir vers moi, et souvent, avant que la séparation ne se fasse, souvent, il y a des allers-retours, c'est-à-dire qu'elle quitte, elle revient, et puis donc il y a ça, il y a l'ambiguïté bon, méchant, et aussi la situation économique de la femme. À cette époque-là, en tout cas, la femme, elle ne travaillait pas, Inès ne travaillait pas, elle avait 6 enfants, et qu'est-ce qui allait se passer ? Déjà, elle se serait retrouvée chez la famille, les enfants, est-ce que son mari aurait voulu les lui laisser ? D'ailleurs, dans une scène qui est assez dure à la fin, on voit qu'il accepte très difficilement le partage des enfants. Donc voilà, donc tout ça fait que c'est très très difficile de se séparer, de partir.
Oui, mais malheureusement, si je puis dire, hein, ça se passe mal. Elle n'est pas partie et voilà quoi. Ça finit mal. On va pas parler trop de la fin quand même. On va laisser ceux qui veulent aller jusqu'au bout du livre voir comment ça se passe. Et les enfants. Alors comment est-ce qu'on peut aider les enfants dans des cas comme ça?
Alors les enfants, je pense que pareil. Hein, si on entend des enfants crier, si on voit que c'est à cause de la violence, ben je pense qu'il faut en parler, il faut dénoncer. Alors il y a un numéro vert, d'après ce que j'ai compris, qui est le 3919, qui est une plateforme téléphonique où on peut appeler et ces personnes-là peuvent vous rediriger vers les autorités compétentes, la gendarmerie, la police, les associations. Donc voilà, donc je pense que si on est témoin, Il faut sortir du non-dit, il faut le dire. Et après, les enfants, en fait, ils arrivent à se reconstruire toujours par la résilience. Et je pense que c'est important de trouver des gens bienveillants sur son chemin pour pouvoir s'en sortir. Ou bien les trouver, ou bien aller les chercher. Parce que sinon, si on reste à huis clos, on ne s'en sort pas.
Est-ce qu'en parler, c'est une étape obligatoire pour guérir ?
Oui, ah oui. C'est la première étape. Moi, je pense que c'est vraiment la première étape d'en parler.
D'écouter les enfants qui ont vécu ces violences du côté de leur mère ou de leur père.
Bien sûr, les diriger vers un psychologue, un médecin. Les médecins de famille aussi sont les premiers à récolter le témoignage de ces femmes et de ces enfants. Bon, les enfants, quand ils sont petits, c'est plus difficile parce qu'ils ne parlent pas. Donc, c'est vraiment de l'extérieur qu'ils pourront avoir une aide.
Et vous, dans vos familles, on a pu en parler ou c'était compliqué quand même ? Ça reste compliqué ?
Ah oui, ça reste compliqué.
Ouais, ouais.
Ça reste compliqué.
Parce que c'est douloureux, tout simplement.
C'est douloureux. Et puis, il y a un sentiment de culpabilité, de n'avoir rien dit, de n'avoir rien fait. Alors que moi, je comprends tout à fait qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Et puis, il y avait le caractère de Germain aussi qui mettait une barrière à ça. Et c'était impossible de contrecarrer Germain. Donc vraiment...
Oui, on va peut-être prendre des coups nous-mêmes si on s'oppose à lui. De toute façon, c'est à la victime de trouver en elle la force de partir. Il n'y a personne qui peut le faire à sa place. Ouais. On peut l'aider,
on
peut être là.
Mots pour
mais à un moment donné, il faut que le courage
vienne d'avoir lieu.
La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
donc
une date à retenir. Et si vous voulez aussi rencontrer Reine Listecchio, vous pourrez la retrouver en dédicace début janvier à la librairie de Saint-Pierre.
Si on parle globalement à La Réunion, est-ce que vous pensez que l'alcoolisme a un peu diminué ou comment faire face à ce fléau aujourd'hui ? On est toujours dans une île qui produit le rhum. Est-ce que c'est lié à la boisson qui est facile ou...
Ben, je pense que c'est lié à la boisson, mais il y a quand même des choses qui sont mises en place. Je pense que quand il y a des fêtes... on n'a plus le droit, dans certaines fêtes, on n'a plus le droit de servir de l'alcool. Maintenant, pour les chiffres, je vous avoue que je ne connais pas les chiffres.
Ouais. Donc, on espère que ça participe à améliorer les choses, des ouvrages comme le vôtre, parce qu'il faut déjà pas mal de courage pour en parler, même si c'est plus ou moins romancé, ce n'est pas votre histoire exacte, vous avez peut-être changé les noms, etc. Ça fait quand même une référence, ou en tout cas, peut-être aussi, on peut parler là maintenant aux profs, aux instituteurs, ou aux profs de français, de prendre votre livre comme un exemple pour débloquer la parole.
Oui, c'est ce que je fais déjà. Donc j'ai travaillé avec une association et ça a libéré la parole d'une jeune fille en tout cas qui à la fin elle est venue me voir, elle m'a dit mon papa tape ma maman, mon frère tape sa femme, ma soeur est tapée par son mari. Voilà. Et là c'est là que je dis qu'il faut quand même avoir, il faut quand même que j'ai avec moi des professionnels vers qui je puisse les diriger. L'idéal ce serait qu'il y ait une assistante sociale, une infirmière, une psychologue qui puisse prendre le relais parce que je le redis, moi je suis pas psychologue. Donc oui, là par exemple, c'est un exemple précis où mon livre a libéré la parole. Elle a pu dire, mais après, ça ne suffit pas. C'est vraiment, si les victimes, les auteurs, les témoins qui lisent mon livre, si ça peut produire un déclic en eux, j'aurais gagné.
Ouais. Vous n'avez pas écrit pour rien.
Voilà, je n'ai pas écrit pour rien.
Très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore des étapes promotionnelles ? Est-ce qu'on va vous trouver en dédicace ? Ou il y a des choses qui sont prévues dont vous voulez parler ?
Alors, donc, comme je vous le disais, donc, je mets en place des rencontres dans les associations, des rencontres dans les établissements scolaires, donc où je travaille avec des élèves, parce que dans les établissements, ça, j'en suis persuadée, il y a beaucoup d'aimés qui sont là et qui ne disent rien, qui sont concernés, qui ne disent rien. Donc j'ai plusieurs. Donc là, aujourd'hui, je suis avec vous. Je vous remercie encore. Je vais également être enregistrée à Radio Capital FM. Je fais une intervention le 20 novembre dans mon lycée. Il y a une rencontre, une intervention, une présentation. Je fais une présentation de mon livre le 24 novembre à la médiathèque de Sainte-Marie. Où là, il y aura un débat qui sera engagé avec le public. Donc voilà. Et puis après, au mois de mars, j'ai d'autres interventions dans les lycées. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Et moi, c'est ce qui m'intéressait.
C'est de faire bouger les choses aussi.
Je ne sais pas si je ferais bouger, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi.
Voilà, pour que les enfants ne soient plus les victimes et que les parents trouvent de l'aide aussi du courage pour combattre leurs démons, chacun les siens.
C'est vrai qu'il y a plein, là en 2019 je crois, quand notre président a pris ses fonctions, il y a eu un Grenelle de la violence faite aux femmes. Et donc il y a plein de lois qui ont été mises en place. Et voilà, maintenant il faut appliquer la loi, quoi. Les lois sont là, mais il faut les appliquer, il faut donner les moyens pour que ce soit appliqué. Je sais pas, plus d'assistantes sociales dans les gendarmes.
Oui, bon, ça c'est sûr qu'on en a besoin, des gens qui travaillent dans le social et qui savent, qui ont les outils pour faire face, pour rentrer en contact avec les gens et leur proposer concrètement des choses. Donc il n'y a pas de baguette magique non plus qui fait à ce qu'on passe d'une situation horrible à une situation merveilleuse, mais on peut déjà se mettre à l'abri. Puis comme vous dites, les coups c'est une chose, mais la violence psychologique elle est plus difficile, parce que même quand il y a les coups, il y a forcément, je pense, la violence psychologique. Et parfois il faut en sortir, peut-être des fois juste, comme vous dites, un séjour ailleurs, sortir de l'environnement pour reprendre des forces et prendre une décision. Parce qu'il y a aussi le fait que parfois on est un peu tellement à la dérive que la prise de décision, elle est difficile.
Bien sûr. Oui. Et je voulais reparler des enfants. Souvent, quand on parle des enfants, je trouve qu'on n'en parle pas assez des enfants. C'est sûr, la femme, elle est... Mais les enfants, on dit souvent que ce sont des victimes collatérales. Elles ne sont pas collatérales du tout. Les enfants sont au centre, sont au cœur.
Parce qu'ils peuvent se prendre des coups. Et...
Mais même de voir la violence envers leur mère, les cris, ils sont vraiment au cœur de la violence. Ils ne sont pas des victimes collatérales, ils sont des victimes
principales. Bon, on va souhaiter un peu plus de paix pour toutes les familles de La Réunion et d'ailleurs, et puis en espérant que le fait d'en parler, on va pas résoudre le problème, et on va peut-être donner aux gens la possibilité de se dire que autre chose est possible. Comment, pourquoi, il faut presque de la foi, en tout cas il faut de l'espoir pour se dire que autre chose est possible et que ça peut avoir une fin quand même.
Il faut d'abord sortir du non-dit.
Ce sera votre dernier mot.
Ce sera mon dernier mot.
Allez, sortons du non-dit. Parlons même de ce qui fait mal, ce dont on a honte, pour avancer. Eh bien, amis auditeurs, bonsoir. On va se quitter avec un dernier morceau que je vous laisse découvrir. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouveaux livres, de nouveaux auteurs pays, de nouveaux thèmes. Merci à tous, au revoir.
Premier débit. Tout à peine, moi, j'avais 15 ans. Il t'écrit à moi, caillou de série. Après ça, Zouranzo t'a envoyé un ballot de causement. Sans qu'on en aperçoit tes lags, si moi, tacon, raquette, pagode, piquant. Nous délits en val, pis un mot, t'es chrome, pis un grain de sel ensemble. À moi, donne lit, à lui, donne un sofa. Moi, t'es sauce, moi, t'es affaire, moi, t'es thé. Nous délions mais rafé. Dernièrement, il a commencé baise la rac. Alors, il n'avait plus rien dans la case, t'es bon pour lui. Manger saut, les frais, son bitier, les plates. Où gaille piment, ni goût, ni sentiment. Mon figuier, il gâte mon corps bourrelé. T'es reviens pili, trop vilain, poli. Gros flac, trop le mot, pour dire. 11 heures, à la gagne, mon premier baisement. Pas si son plat de riz t'avait un pébret de sans main si col à mourir grillé, soi-disant. Il a dit à moi, peste là en guette ton maman. Tu vois pas la mourir là les salés? T'es là des salsa avec l'eau la mer, quoi. Là commence coma. Moi t'es pis femme, jeune fille, 15 ans, caillou de série. À moi, mon maman au soleil avec toute mon bonne famille. Pour mes affaires, la passe dans son mètre et pour moi. L'esclinte à moi, la reine à moi avec. Son rase en ravasse dans la case. Son colère, son misère, son romère. Moi, la pas gagné en Paris. Moi, l'arrête là, debout, la tête baissée, l'osier à terre, le blues, falangué. Il a dit à moi, Donne-moi encore un bon raison. Fais manier, tu lèves la tête, tu guettes à moi. Sauf pour aller où ça, la gueule mauve, comme tu brûles, c'est pas à cause mon cœur la glace fort. Mais guette pas, tu joues la tolle, la ligne fort. Mais dis maman, dès qu'il rentre, quoi dormi, tac la porte, débascule la fenêtre. Calcule pas mon monde derrière. En moi-même, midi, provide de son gros feu noir, de son cosson sous les ronds blancs. Li oublie son dégueul en l'air, là, moi. Provide si gâte, maman, il prend la vol sauvée. Comment caille sap la colle dématée. Maman, ou la diamant, oui, sorta pas dans la case, tant qu'ou l'a pas bagué, tant qu'ou l'a pas maillé. Mon père, ou l'a diamant, pour le meilleur, pour le pire, pour raison l'enfer, le paradis saint pire. Jésus-Christ, ou la diamant, imagine mon parolier, pas si tôt caloté la gueule, à présent l'autre côté figure. Grand bon Dieu. Jusqu'à de la mort, mon caisse son malheureux sort au bout de là, la tienne, c'est pas qui bord. Non, non, maman, non, mon père, non, Jésus, non, bon Dieu. Au damier, mange, puis m'encraser tous les jours, puis t'aussi porte un nom comme ça encore un seul jour.
Voilà, il s'agissait en fait pas d'un morceau, mais d'un fond de cœur de Jean-Marie Barré, donc puis m'encraser. On va se quitter là-dessus sans oublier de rappeler que le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et si vous voulez rencontrer Reine Listecchio, elle sera en dédicace à la librairie Autrement à Saint-Pierre début janvier. À tout bientôt, amis auditeurs.